Radio Okapi.
Le journal, ma belle Pongo Massimango.
Okapi.
Bonjour, Sack est de nouveau entre les mains du 1-23 depuis hier soir après sa récupération pendant quelques heures par les FARDC. Nekomba en fait 4 morts. Le 1-23 a depuis renforcé ses positions d'après des sources sur place. Le ministre de l'Intérieur à Kisangani depuis hier, Richard Mouyage, dit être là pour établir l'équilibre entre le chef de l'État et son peuple, également appuyer les efforts de l'autorité provinciale pour rétablir l'ordre après la marche des étudiants marquée par des casses. Au Kassa Oriental, le gouverneur de province annonce la fin de l'attaque contre le colonel John Chibangu, officier déserteur de FARDC. Il a tenu un point de presse hier. La cité de Saki, environ 27 km au sud-ouest de Goma, de nouveau sous occupation des rebelles du M23. C'est après de vifs combats qui ont opposé toute l'après-midi d'hier les forces loyalistes aux rebelles du M23. Le bilan provisoire des combats fait état de 4 personnes tuées et d'importants dégâts matériels. Le point avec Gabriel Wamenia.
La cité de Saki, qui est passée sous contrôle des forces loyalistes hier en début d'après-midi, a été reprise dans la soirée par les rebelles du M23, affirment les sources coutumières. Ces sources précisent que les FARDC sont parvenus à bouter les rebelles hors de la cité jusqu'au-delà de 5 km sur la route de Goma. C'est aux environs de 17h locales que les rebelles ont lancé un nouvel assaut sur la cité. Les sources locales confirment que des combats intenses ont repris et duré plus de 4 heures. Ce n'est qu'à 20h que les FARDC ont décroché en abandonnant leur position dans la cité, indiquent ces sources. 4 personnes, dont un militaire FARDC, ont été tuées. Les sources coutumières confirment ces bilans et ajoutent que les rebelles ont désormais renforcé leur position dans la cité. Ils se seraient par la suite dirigés dans 3 directions, d'abord à Kiroche au sud, à Mushaki au nord-ouest et à Kingi sur l'axe Masisi centre. Quelques habitants courageux sont restés chez eux, tandis que d'autres, ajoutent les sources locales, ont trouvé refuge autour de la base des casques bleus de la MONUSCO à Mubambiro, 5 km de Saké. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Et dans la cité de Minova, à 27 km de Saké, des sources concordantes sur place signalent des actes de pillage hier. De 19h à 3h du matin, plus de 60 boutiques ainsi que certaines maisons ont été systématiquement dévalisées par certains militaires des FARDC. Ces biens pillés ont été transportés par des camions en direction de Kalungu, à 12 km au sud de Minova. Un cas de viol a également été signalé au quartier Tchabikere de Minova. Pendant ce temps, la ville de Goma est sans eau potable et sans électricité depuis 5 jours. Cela est dû à une panne de la ligne haute tension. Elle a été endommagée à 2 endroits par des tirs lors des affrontements de lundi et mardi entre FARDC et 1-23, indique la Société nationale d'électricité SNEL. Les conséquences de ce manque d'eau et de courant électrique se font déjà sentir, Denise Lukesso.
Depuis 5 jours, la ville de Goma est plongée dans les noirs, faute de courant électrique et la fourniture en eau potable n'est plus assurée. À l'hôpital provincial que nous avons visité, plusieurs services ne fonctionnent plus, c'est notamment la morgue, les services de radiologie, celui des stérilisations au niveau du bloc opératoire. À la morgue, une quinzaine de cadavres sont dans un état de putréfaction. Une équipe de la Croix-Rouge est à pied d'œuvre pour évacuer ces corps. À la maternité, notamment au service néonatal, un enfant prématuré y est mort hier, faute de soins. Même situation à l'hôpital militaire de Katindo, où sont abandonnés des dizaines de cadavres des militaires. Le ménage éprouve d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau. La population de Goma fait ainsi recours à l'eau du lac qui, pourtant, n'est pas traitée. La SNEL déclare disponibiliser un groupe électrogène de secours pour alimenter la régie des eaux, en attendant une solution durable. Les directeurs de la SNEL indiquent qu'une équipe spécialisée en provenance du sud est attendu à Goma pour intervenir sur la ligne haute tension. En attendant, la population doit prendre son mal en patience. Goma, Denise Louquet sur Radio Capi.
Le mouvement rebelle du M23 revendique l'ouverture des négociations politiques avec le chef de l'État avant tout retrait de la ville de Goma, selon son coordonnateur Jean-Marie Runiga. Une revendication qui va dans le même sens que celui de la mise en œuvre des accords du 23 mars 2009, qui est d'ailleurs à l'origine de la naissance de ce mouvement rebelle. Mais que disent ces accords du 23 mars auquel les rebelles tiennent mordicus à l'application et quelles sont les nouvelles orientations que donne ce mouvement à ses revendications aujourd'hui? Notre confrère Jacques-Yves Molima nous donne ici le résumé de leur contenu.
Pour le président du M23, Jean-Marie Rouniga, cité par l'AFP, les négociations devraient mettre autour d'une table la société civile, la diaspora, l'opposition et le gouvernement. Mais au fait, dans ses débuts, le M23, qui tire ses origines des accords du 23 mars 2009, conclu entre le gouvernement congolais et le CNDP de Laurent Kunda, ne réclamait que leur application. Ces accords revendiquaient notamment l'intégration des forces du CNDP au sein des FRDC de la police nationale, avec la reconnaissance de leur grade. Le CNDP revendiquait une loi d'amnistie couvrant la période allant de juin 2003 jusqu'à la date de la promulgation. L'accord demandait également des mécanismes de retour des réfugiés et des déplacés internes. Selon cette clause, le gouvernement s'engageait à relancer dans les plus brefs délais les commissions tripartites relatives aux réfugiés congolais se trouvant dans les pays voisins et à initier des actions de réhabilitation nécessaires à leur réinsertion. En plus de déclarer les provinces du Nord et Sud qui vous ont sinistré, le CNDP demandait la mise en œuvre des projets intégrateurs et le développement en commençant par les territoires les plus sinistrés où résiderait la main d'œuvre fournie par la démobilisation et les réfugiés de retour. Par ailleurs, le CNDP proposait en ce qui concerne l'administration du territoire un modèle de découpage du territoire national fondé sur la nécessité d'une meilleure prise en compte possible des réalités sociologiques du pays. Enfin, les deux parties s'étaient convenues de la nécessité de mécanismes fiables et efficaces de bonne gouvernance à tous les niveaux et dans tous les domaines, y compris celui de la certification, de l'exploitation, de l'évaluation et du contrôle des ressources naturelles.
Au Sénat, la séance plénière vient d'être suspendue moins de 10 minutes après son début. Le Premier ministre attendu ce vendredi pour le sujet de l'Est ne s'est pas présenté. Dans une lettre adressée au bureau du Sénat, Matata Ponu évoque des raisons de santé pour justifier son absence. Dans la même correspondance, le Premier ministre informe que les ministres concernés par la question orale regagneront la capitale le week-end. Il s'agit des ministres de l'Intérieur, de la Défense ainsi que des Affaires étrangères. Ces derniers pourront en effet éclairer les sénateurs sur la guerre au Nord Kivu, renseigne la même lettre. Entre temps, le bureau du Sénat programme la prochaine plénière pour lundi prochain. Toujours à Kinshasa, au moins 5000 femmes marchent pour dénoncer l'agression de la RDC par, disent-elles, le Rwanda et l'Ouganda. Ces femmes de tous les milieux sont allées déposer leur mémorandum au PNUD, siège des Nations Unies sur le boulevard du 30 juin. Innocent Olinga est en train de suivre cette marche.
Réqualification du mandat de la MONUSCO pour une mission d'intervention. Les femmes congolaises demandent la paix et rien que la paix. Les femmes congolaises disent non à l'agression. Tolembi, Tolembi, ce sont des messages que nous pouvons lire sur certains calicots de ces femmes manifestantes qui ont commencé leur marche de la Grand Poste sur boulevard du 30 juin vers le siège des Nations Unies qui abrite les PNUD. Parmi ces femmes, des ministres nationales et provinciales, des parlementaires, des marchandes, mais aussi celles venues des différentes entreprises publiques. Dans leur mémorandum de 2 pages remis au PNUD, ces femmes interpellent les Nations Unies et disent, je cite, « Stop et plus jamais ça ». Cette marche, signalons-le, est encadrée par la police sous le commandement du colonel Kanyama.
Deux jours après la marche, les étudiants ont suivi de casse à Kisangani. Le ministre de l'Intérieur est arrivé sur place hier. Richard Mouyage dit être là pour rétablir l'équilibre entre le chef de l'État et son peuple. Il doit également consolider les efforts de l'autorité provinciale pour rétablir l'ordre public, parce que, dit-il, l'autorité de l'État doit être forte et partout. Richard Mouyage l'a dit au sortir de la réunion du comité provincial de sécurité qu'il a présidé dans la salle des réunions du gouvernorat de province. On l'écoute au micro de Jacques Mokonkole.
Au départ, la marche aurait eu comme principale motivation la révolte contre l'agresseur. Il s'agit de la crise de Goma. Vous connaissez l'agresseur et vous connaissez la chemise de l'agresseur. La chemise de l'agresseur, c'est le M23. L'agresseur, c'est le Rwanda. Mais nous n'avons pas compris comment, de cette motivation initiale, on s'en est retrouvé avec de nouvelles revendications qui ne cadrent pas avec les réalités. Et il est important qu'on puisse mettre fin à ce genre de manipulation parce que nos jeunes, nos parents doivent connaître la vérité. Nous prendrons une série de contacts avec la notabilité parce que nous venons d'être édifiés par les rapports du Conseil de sécurité de la province et cela va nous guider dans différents contacts pour non seulement avoir l'information mais percer les énigmes qui auraient été à la base de cette agitation inutile.
Après Kisangani, le ministre de l'Intérieur se rend ce vendredi à Bounia pour la même mission. Quelques réactions dans ce dossier de l'occupation de Goma par le M23. Le premier ministre britannique a appelé hier soir le président rwandais. David Cameron a exhorté Paul Kagame à faire tout ce qu'il peut pour faire pression sur le M23 afin que cette rébellion se retire de Goma, d'après un communiqué du gouvernement britannique. David Cameron a clairement indiqué que la communauté internationale ne pouvait ignorer les preuves de lien du Rwanda avec le M23. Il ajoute que le président Kagame devait démontrer que le gouvernement du Rwanda n'avait pas de lien avec ce mouvement rebelle, a précisé le porte-parole du premier ministre britannique. Voilà, autre réaction. Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza compte organiser une table ronde pour débattre de la situation qui prévaut dans l'est du pays. Le président national de l'Union nationale de fédéralistes du Congo, une affaire qu'il a dit hier au cours d'une conférence de presse à Lubumbashi. Je vous invite à le suivre.
Une affaire va organiser d'ici là une table ronde qui va réunir toutes les grandes personnalités de cette province afin de pouvoir tirer une ligne de conduite commune à travers toute la province. Il faut réfléchir là-dessus, la grande table ronde des personnalités de Katanga. Nous allons sortir toutes ces résolutions pour que nous puissions trouver des pistes de solutions rapides. Le fait que le président lui-même l'avait dit, il n'y a pas que les armes, il y a toutes sortes de formules pour éviter que le sang ne coule, pour que nous puissions ne pas exposer nos enfants en danger, parce que nous ne pouvons pas accepter qu'on marche sur nous comme dans du beurre. Ça, nous ne pouvons pas accepter. Le chef de l'État, il a décrété la mobilisation générale. L'UNAFEC se sent tout aussi interpellé et décrète la mobilisation générale pour défendre ce pays.
Et pour boucler ce chapitre sur l'Est du pays, cette autre réaction de François Nicéphore Kakese-Malela, candidat malheureux à la présidentielle de 2011. Depuis Lubumbashi, dans son point de vue sur cette occupation de Goma et les négociations qui ont été amorcées, il est au téléphone de Richard Junior Kamunga.
Les effets sont clairs que depuis que M. Kabila est à la tête en chef de l'État, il n'a jamais pris une position audacieuse pour condamner toute agression étrangère sur notre sol. Et ça, ce n'est pas normal, parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème au pays, il recourt toujours des solutions en dehors du pays. Aujourd'hui, il se trouve à Kampala. Et quand vous suivez la Monisco et le vrai témoin, c'est Museveni de Kampala et Kagame de Kigali. Ce sont les deux qui soutiennent le M23. Quand ils vous disent, voilà, ils ne négocient pas avec le M23, mais ils vont voir le président Museveni et Kagame. Ils négocient directement avec le M23 parce que ce sont là les deux qui soutiennent ces mouvements. Et là, nous ne sommes pas d'accord. Son porte-parole dit, voilà, on négocie pas, mais lui, le président, il va y négocier.
Au Kassa-Oriental, le gouverneur Alphonse Ngoï Kassangi annonce la fin des opérations de traque contre le colonel John Chibangu, officier déserteur de la 4e région militaire. Au cours d'un point de presse hier sur la situation de Goma, le gouverneur du Kassa-Oriental a indiqué que les militaires déployés dans le territoire de Kabeakamwanga, la suite de John Chibangu, avaient été retirés. Tout en confirmant ce retrait progressif des éléments du FRDC, la société civile de Kabeakamwanga soutient que la situation sécuritaire demeure préoccupante. Tikimputu.
Après avoir invité la population du Kassa oriental à résister face à la situation d'occupation de la ville de Goma, le gouverneur de province s'est ensuite félicité de la poursuite que son gouvernement a faite à John Chibangu, colonel déserteur de la 4e région militaire, de passage dans sa province. Pour lui, cette opération s'est achevée par un succès.
À cause de ce qu'on a fait, la pression, les 11 militaires se sont rendus avec 11 armes et lui a pris fuite. Il n'est plus sur notre territoire et nos hommes ont été retirés. Il reste quelques hommes pour assurer la sécurité et tout.
Pendant ce temps, la société civile de Kabeakamwanga chiffre à l'appui, continue à penser que les militaires envoyés sont toujours comptés par dizaines. Ils seraient même à la base de l'insécurité. Le secrétaire de la société civile Kabeakamwanga.
Ce n'est pas normal de retirer petit à petit les militaires. Comme ils étaient venus dans une mission bien déterminée et qu'on est déjà au bout, donc on peut retirer tous les militaires et les policiers. Parce qu'il y a certains qui tracassent la population. Dans la localité de Mopompa, il y a 10 militaires Kinshanko, plus ou moins 20 militaires qui sont là. Le nombre est plus grand.
Excepté la localité de Mopompa où il y avait une forte concentration des militaires, la vie reprend timidement dans d'autres contrées. Écoles et champs sont de nouveau fréquentables, affirme la société civile locale. Mbujimaï, Nikemputu, Radio Okapi.
Merci Nikie, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.